Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Je propose que nous fassions deux lectures dans notre Bible, une première dans le Nouveau Testament, l'Évangile de Matthieu, et puis la seconde, nous la ferons dans le livre de Samuel. Alors, commençons par Matthieu, chapitre 6, un verset qui va nous situer et puis concrétiser notre réflexion, notre pensée ce matin sur laquelle eh bien, nous allons étudier. Alors, Matthieu, évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 24, ce que vous connaissez, hein, on connaît bien cette parole, elle est de Jésus, et il dit ceci, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Voilà, vous ne pouvez pas servir, eh bien tout est son contraire, tout simplement. Il va aimer l'un, il va mépriser l'autre, il va s'enthousiasmer pour l'un, mais il rejettera, eh bien, le second. Et tout cela, c'est une illustration que nous allons donner à notre propos dans le livre de Samuel, premier livre de Samuel, s'il vous plaît. Premier livre de Samuel. Et on va faire comme on a l'habitude de faire assez souvent, à faire une étude de texte. C'est facile. Enfin, c'est facile. Soit dit en parlant ainsi. Mais ça nous permet d'avoir une idée bien précise sur le développement de l'ensemble du texte. Et puis, verset après verset, eh bien, nous en faisons sortir quelques grandes vérités. Alors donc, 1 Samuel. Tout simplement. Chapitre 8. Ne l'ai-je pas dit?
Non.
Vous êtes vraiment tous contre moi. Alors, 1 Samuel, chapitre 8, vous l'avez bien entendu. Et vous l'avez trouvé.
Oui.
Eh ben, c'est formidable. Vous êtes magnifique et merveilleux. Ça vous fait plaisir? Je lis le premier verset. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Voilà une situation qui nous interpelle parce que il y a une fin à tout. Et même pour les plus grands hommes qui sont apparus dans la Bible et qui aujourd'hui, eh bien, peuvent être autant serviteurs de Dieu que disciples de Jésus-Christ, il y a toujours, eh bien, un temps, le temps s'écoule, et il y a naturellement, eh bien, dans la perspective, des temps nouveaux qui vont venir. C'est vrai qu'on s'attache au personnage. C'est vrai que quand il y a un homme d'exception, comme l'était Samuel pour le peuple d'Israël, parce que ça fait partie justement de ces personnages de la Bible dont on connaît la naissance jusqu'à la mort. Eh, il n'y en a pas eu beaucoup comme ça, hein. Alors on pense à Jésus, hein, de Nazareth à la croix, mais il y en a eu quelques-uns, mais ils sont quand même assez rares, ces hommes, dont Samuel. Et Samuel a eu un ministère prophétique, on l'appelle le prophète Samuel, mais vraiment, on peut dire d'une façon, d'une fidélité et puis d'un amour pour Dieu, est toujours engagé à ramener un peuple indocile, un peuple tumultueux, toujours sur la parole de Dieu. Ça, c'est le ministère. Il n'y a pas eu de grand miracle chez Samuel. Mais toujours est-il que c'était la force de sa parole. On peut dire qu'il avait un ministère de la parole de Dieu. Et il nous est simplement rappelé, avec une certaine tristesse, lorsqu'il devint vieux, ça arrivera à tout le monde, hein. Ça, c'est sûr, hein. C'est la loi de la vie. Alors, à ce moment-là, il a cru bon. C'était peut-être pas ce qu'il fallait faire, mais il a cru bon établir ses fils juges en Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abija. Ils étaient juges à Beersheba, c'est-à-dire qu'ils ont pris finalement la succession de leur père. Et dans le peuple d'Israël, il y avait comme ce que l'on appelait des juges. Alors c'était des princes en quelque sorte, c'était pas la royauté, c'était pas, mais ils avaient un statut tout à fait particulier à la fois religieux et politique. Et on connaît naturellement, eh bien, je l'ai dit il y a un instant, toutes les qualités de Samuel. Mais la vieillesse appelle à une succession à un moment ou à un autre. Et on s'aperçoit que celle de Samuel va être une succession hasardeuse. Hein, il nous est parlé de, ils étaient tous les deux juges, ils avaient le titre, ils avaient la fonction. Mais nous allons vite nous apercevoir qu'ils n'en avaient pas la qualification ou les qualités, tout simplement. On peut dire dans notre vocabulaire, tel père, tel fils. Mais là, on va pouvoir dire, tel père et tel autre au pluriel fils, parce qu'ils ne ressemblent pas à leur père. Mais alors, vraiment pas du tout. Et dans la poursuite de notre lecture, nous lisons, ils étaient juges à Beersheba, les fils de Samuel ne marchèrent point sur les traces de leur père, donc sur de Samuel, ils se livraient à la cupidité, ils recevaient des présents et violaient la justice. Alors pour des hommes d'autorité spirituelle, on peut pas dire que c'était quand même une réussite. Hein. Autant leur père, parce qu'il avait annoncé, par la vie même, une parole vivante qu'il donnait au peuple d'Israël, et il était respecté, Samuel, autant ses fils, nous donne la preuve d'une grande et pitoyable défection et d'un comportement inapproprié. On s'aperçoit que c'est le père Samuel qui les a mis en place. Mais est-ce qu'il avait bien finalement regardé si ses fils et ses successeurs de fils étaient en capacité de prendre la suite? Ça fait toujours plaisir d'avoir un successeur. C'est vrai. Ça fait toujours plaisir de, quand on est chef d'entreprise, de dire, eh bien voilà, et surtout quand on est, eh bien quand on met dans la famille un homme, une fille, un fils, et de dire, eh bien voilà, ça restera dans la maison, ça restera dans la famille. C'est bien. Mais il faut qu'il y ait aussi, eh bien là, la pensée de Dieu dans tout ça. On l'a vu, il y a parfois de belles réussites, il faut le dire, mais il y a, dans le contexte même de nos églises, parfois des catastrophes. Parce que ce qui a été Samuel ne l'a pas été pour ses fils. Et on peut dire que l'avenir est sous les nuages, tout simplement des nuages inquiétants. Et on va le découvrir parce que d'une situation, ça va en amener une autre. Samuel est vieillissant. À un moment, il va partir. C'est pas la fin de son ministère. Hein. Il va avoir encore un ministère très très prégnant hein, dans la vie du peuple d'Israël. Mais il se dit maintenant, je peux plus faire certaines choses, donc il faut que ce soit mes fils qui viennent prendre le relais. Et puis à un moment donné, eh bien voilà, ils deviendront ce que je suis et puis ils conduiront bien le peuple. Alors les choses, on les apprend par la suite. Quand nous lisons que cupidité recevait des présents, il violait la justice, alors à ce moment-là, devant les faits constatés par les sommités, enfin les anciens du peuple d'Israël, au verset 4, tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et ils sont venus, en délégation, hein, ils vinrent auprès de Samuel à Rama, ils lui dirent, voici tu es vieux, ça ils savaient déjà qu'il était vieux. Voici tu es vieux et tes fils ne marchent pas selon tes traces. Peut-être que Samuel s'était pas aperçu qu'il ne marchait pas selon ses traces. Par contre tout le monde le savait. Alors on est venu lui dire, tu sais, ça nous pose vraiment un problème. Hein, on sait que tu n'es pas éternel, bien qu'il le soit, mais que tu n'es pas éternel sur la terre. Eh bien maintenant, nous te demandons d'établir sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez les autres nations. Alors là, on va de surprise en surprise, parce que le pauvre Samuel, dont on connaît l'intégrité, va s'apercevoir que ses enfants ne font pas l'affaire, mais la question des anciens est d'autant plus surprenante, c'est que elle se formule dans des termes tout à fait particuliers, parce que la proposition qui est faite à Samuel à ce moment-là, comme si c'était Samuel qui était Dieu, non, ils sont venus vers un homme, mais pas vers Dieu. Et apparemment, il n'est pas question d'avoir prié Dieu pour savoir qui remplacerait Samuel. Hein. On n'en entend pas parler. Hein. Peut-être que Samuel l'avait demandé, mais en tous les cas, les anciens, ils vont couper court, hein, et ils vont lui dire, eh bien, nous voulons que tu établisses, nous aimerions que ce soit toi qui donnes l'onction, eh bien, que tu établisses sur nous un roi comme il y en a chez toutes les autres nations. Ah, et là, ça pose vraiment un problème. Parce qu'on ne regarde pas vers le ciel, on ne regarde pas vers Dieu. On compte sur un homme qui s'appelle Samuel, qui était un homme excellent, mais qui reste un homme. Et on prend comme référence ce qu'il y a autour. Et ce qu'il y a autour, c'est le monde. C'est le paganisme. Ce sont toutes les nations qui sont des nations pleines d'idolâtrie, d'occultisme, de toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir, mais alors vraiment rien à voir, avec les principes que Dieu avait donnés par Moïse et puis ses successeurs, hein, travers les commandements, enfin travers toutes sortes de choses, n'ont rien à voir avec la volonté et la pensée de Dieu. Nous aimerions que tu établisses sur nous un roi, une tête, un chef, comme il y en a chez les autres nations. Regarde à droite, regarde à gauche. Chez les Amoréens, eh bien, ils ont un roi. Hein, chez les Éviens, ils ont un roi. Chez les Philistins, ils ont un roi. Alors, nous, on est, mais qu'est-ce qu'on fait au milieu de tout ça? Nous, on n'a personne. Hein? C'est justement. Ils ont personne qu'ils ne voient, mais par contre, ils ont un Dieu qui est présent au milieu d'eux, avec toutes sortes de promesses, avec des preuves que nulle autre nation n'a eues de l'existence de Dieu et de la révélation de Dieu, des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires, libération d'Égypte, la mer Rouge qui s'ouvre, toutes sortes de choses, 40 ans dans le désert sans manquer de rien, et ils disent, ben, nous voudrions avoir maintenant, eh bien, oh, ce Dieu, on ne le voit pas, donc ça ne... On s'est bien fait un veau d'or, ben, le veau d'or, hein, on peut taper dessus, hein, et il dit rien. Ah oui. Nous voudrions être comme les autres qui sont autour de nous. On pourrait peut-être dire, et dire le dire maintenant, c'est un choix de référence plutôt pitoyablement médiocre pour un peuple comme le peuple d'Israël. Ah ouais, tristement médiocre. Peut-être que ça nous interpelle, et c'est fait pour nous interpeller ce matin. Parce qu'on peut se fatiguer de tout. On peut se fatiguer... finalement, de notre vie chrétienne, de notre routine, on peut se fatiguer des réunions, on peut se fatiguer du pasteur, on peut se fatiguer des prédicateurs, on peut se fatiguer des cantiques, on peut se fatiguer de tout, on peut se fatiguer de Dieu. Et le peuple d'Israël se fatiguait de tout. Tant qu'ils ont eu Samuel, il y avait du stimulant, il y avait quelque chose qui les raccrochait. C'est pas qu'ils avaient pas envie de faire des bêtises, mais ils ne les faisaient pas. Mais maintenant que le vieux Samuel est sur le déclin, que on regarde vers ses fils, on se dit c'est pas fameux. Alors nous aimerions vraiment avoir quelqu'un, une personnalité, une autorité, quelqu'un véritablement. Eh bien là, on va le voir dans la lecture. Hein, mais que l'on puisse dire c'est notre roi et nous sommes fiers de notre roi. Alors on a parlé de référence qui tire vers le bas, et c'est véritablement le témoin, c'est le témoignage d'un niveau décadent du peuple d'Israël. On ne regarde pas en haut, on ne cherche pas Dieu, on se fatigue, et puis peut-être même toutes les procédures religieuses, sacerdotales aussi, qui étaient très répétitives, hein, commençaient à dire, mais ça sert à quoi tout ça? C'est de la routine. Et c'est peut-être ce qui peut attendre le peuple de Dieu à un moment donné, quand les églises vieillissent, quand, après un temps d'une certaine gloire de Dieu, on a parlé des dons spirituels, on se dit, ben voilà, mais il se passe plus rien. Il y a plus grand chose. On commence à regarder de droite et de gauche, on se dit, mais regardez, là, il y a ceci, regardez, il y a cela, etc., etc. Alors, ils ont voulu dire à Samuel, comme chez les autres. Alors, on a peut-être des voisins de toute nature, et On a peut-être aussi des exemples autour de nous en disant, ben regardez là, dans telle église, il y a ceci et cela, etc., etc. Avec la tentation peut-être de toutes sortes d'aventures, d'aller vers toutes sortes de choses, en se disant, mais si nous avions un pasteur d'envergure, ça serait formidable, vous rendez compte? Et moi je vous dis que depuis que cette église a été créée il y a 50 ans, ben, je vous dis que si tous ceux qui étaient venus depuis le temps de mes prédécesseurs, hein, jusqu'à maintenant, il y aurait combien? Il y aurait peut-être 10 églises à Saint-Nazaire, peut-être 10 fois plus grandes que celle-ci. Mais ça ne dépend pas de l'homme. Ça ne dépend pas de ce que l'on peut faire d'une manière ou d'une autre. C'est le Seigneur qui conduit et qui dirige toutes choses lorsque le travail a été fait comme avec Samuel, avec beaucoup de conscience et beaucoup d'amour de Dieu. Et moi, je pense que ça, c'est important. Alors que l'Église soit comme ça, bénissons le Seigneur, de pas être 3 ou 4 ce matin. Je vais loin là, hein. Mais bon, c'est comme ça. Vous comprenez? Le vieillissement, l'amortissement. On en a parlé hein, dans le bilan l'autre jour, hein, d'amortissement. C'est pas le même, ça c'est le comptable. Voilà. Nous voulons être comme. Ah, nous aimerions. Mais soyons ce que nous sommes et glorifions le Seigneur pour ce que nous sommes et non pas pour ce que nous aimerions être ou ce que nous n'avons pas, ce que nous n'avons plus et surtout ce que nous n'avons, ce que quelquefois sottement nous avons perdu. Hein. Parce que ça va faire partie du bilan lorsque nous arriverons de l'autre côté. Hein. Un roi pour nous juger. Ah oui. Un roi pour nous juger. Puis ça fera bien. Hein. On enverra des ambassades dans tous les pays. On enverra une ambassade à Monsieur Trump à Washington. On en enverra une à Pyongyang. Et puis, là, dans tous les pays d'Asie où ça chauffe un petit peu. À Jérusalem, pourquoi pas. Hein. Eh oui. Et on pourra dire, voilà notre président, il est beau, il est magnifique. Hein. Regardez. On est bien, nous. Hein. C'était, enfin, vous comprenez. C'est-à-dire, une autorité pour rétablir ou gérer l'autorité, finalement, eh bien là, dans le peuple. Et de prendre et choisir en exemple le monde, et c'est ça la référence, choisir le monde corrompu et païen et le tenir pour modèle moral. Ah, là, ça pose véritablement une autre question. Parce que on peut faire des comparaisons avec la diversité du christianisme. On peut faire la comparaison, nous, dans ce que nous sommes en tant que chrétiens, avec le monde qui nous environne. C'est vrai. Hein, il y a ceci, il y a cela, etc. Et la tentation peut être grande de dire, eh bien voilà, le Seigneur m'a retiré du monde, mais ah, j'ai quand même envie de faire ceci et cela, parce que le monde le fait. Et si la majorité le fait, c'est donc c'est bien. Attendez, c'est peut-être pas forcément la majorité qui a raison. Et c'est justement le problème de dire, eh bien voilà, finalement, eh bien on c'est le relativisme en tout et partout. Et nous avons un écho préventif. Quand l'apôtre Jacques nous dit cette parole, et j'aimerais justement la placer simplement devant nous, il nous dit ceci, Jacques, au chapitre 4 et versets 3 à 4, il dit ceci, « Vous demandez, alors on s'imagine les anciens avec Samuel, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Et vous demandez mal, pourquoi? Parce que dans un but de satisfaire vos passions, vos goûts, vos appétits, vos instincts. » C'est bien dit. Et là, il est dit, mais adultère que vous êtes, alors c'est pas un adultère charnel, c'est un adultère spirituel, hein, parce qu'il s'agit naturellement des chrétiens. « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Et c'est peut-être le message que Samuel voulait faire passer, parce que on va voir le déroulé maintenant du commentaire, et on sait peut-être là justement, mais si vous voulez être ami du monde, alors à ce moment-là, vous allez vous retrouver en opposition avec Dieu, parce que votre choix, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, il n'est pas convenable. Vous savez, quand les chrétiens que nous sommes glissent vers des valeurs minimales, parce que nous sommes appelés à l'aide de progrès en progrès, ça on le sait. Hein. Toutes les épîtres de Paul, par exemple, nous stimulent, Pierre aussi nous stimule en disant, mais mettez la parole en pratique, vivez ce que vous avez à vivre, non pas d'une manière légale, mais dans la grâce. Donc c'est beaucoup plus facile. Mais il semble que ce soit plus difficile. Alors, on s'aperçoit qu'il y a un affaissement, en quelque sorte, les valeurs minimales, et on perd peu à peu celle de Dieu. C'est-à-dire que plus nous déclinons vers quelque chose qui nous ramène à tout ce qu'il y a d'humain, de charnel, bon, c'est naturel, mais c'est pas forcément ce qu'il faut. Alors à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'éclaire d'un côté, mais il y a quelque chose qui se referme de l'autre, vous comprenez ? On commence à moins comprendre Dieu, on commence à plus avoir de goût de Dieu, plus le goût de sa parole, plus le goût de sa communion avec lui, ou de la prière, enfin toutes sortes de choses qui font partie, eh bien, de l'expression de notre vie spirituelle. Alors, il nous est dit un peu plus loin, au verset 6, « Samuel vit avec déplaisir hein, qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. Voilà l'homme. Il aurait pu pleurer toutes les larmes de son corps en disant « Mais qu'est-ce qu'il me demande ? Mes fils ne font pas l'affaire. Et voilà que les anciens me tombent dessus pour me demander maintenant eh bien, de nous donner le commun, alors que toi, Dieu, tu nous as donné l'extraordinaire et l'excellence. » Eh oui, ça se dégrade tout simplement. On pourrait parler du déplaisir de Samuel qui s'en rend compte à ce moment-là, de sa stupéfaction tout simplement. Et pour nous livrer cette leçon, première leçon, c'est que l'érosion de la foi, le manque de persévérance, le manque de renouvellement spirituel, le manque d'entretien de notre vie spirituelle, à la fois de la connaissance de sa parole, de la prière, de la communion fraternelle, et puis de toutes sortes de choses qui sont tellement nombreuses, parce que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la foi. Hein. On n'oublie pas ça, hein. C'est quand même dans la Bible. Alors à ce moment-là, ce déplaisir et cette profonde déception de Samuel de voir le bilan d'une fin de règne. Et ça, c'est quelque chose qui était terrible pour Samuel. Imaginez-vous, lui qui avait été appelé merveilleusement par Dieu, qui était né alors qu'il ne devait pas naître, à travers une expérience d'Anne, sa mère, extraordinaire, la fin d'une longue carrière où la racine dans le peuple d'Israël n'est que superficiellement ancré dans les cœurs. Et c'est peut-être le souci de tous les pasteurs, c'est les soucis de tout responsable dans une église, c'est peut-être les soucis aussi de tous les parents par rapport à leurs enfants, quand ils sont convertis, de voir que, bon, on a essayé de montrer l'exemple, on a essayé de faire tout ce qui était nécessaire. Le conducteur spirituel pourra peut-être se dépenser, il se dépensera, et il s'aperçoit que ben, le niveau est toujours le même. Ça n'a pas évolué. La joie d'un serviteur de Dieu, la récompense d'un serviteur de Dieu, c'est quand il voit que l'Église progresse, quand il voit que non seulement en apparence, mais dans la solidité de la foi des chrétiens et tout ça, leur fidélité, leur vie de prière, hein, leur participation à la vie de l'Église, leur feu du témoignage, et que dans certains cas, eh bien, on s'aperçoit que et ils sont restés des enfants. Paul le dira, d'autres le diront, ils diront, mais vous en êtes encore au lait, alors que moi je vous ai apporté de la nourriture solide. Et la nourriture solide, c'est pour en faire des hommes, pour que nous puissions nous constituer, physiquement parlant, et spirituellement, eh bien c'est la parole de Dieu. Et je pense que ça a été véritablement une déception pour Samuel, quand il a vu le peuple, représenté par les anciens, lui demander, ben, donne-nous un roi. Mais c'était pas le but, ça. Hein. C'était pas le but. Hein. Oui. Alors, Samuel pria l'Éternel. Et c'était la seule chose qu'il pouvait faire. Il n'allait pas remuer, aller d'un endroit à un autre, en disant, s'occupez-vous, parce que moi, maintenant, je veux bientôt partir, et puis c'est, hein, voilà. Non, non. Il a prié Dieu. Que faire d'autre devant l'évidence du si peu de maturité morale et spirituelle du peuple d'Israël? Que faire? C'était des temps difficiles que les temps des juges. Ça durait à peu près 400 et quelques années, hein. C'est long. Mais il se disait, mais moi, il me semble que tous mes efforts. Paul pleurait sur des églises qui ne fonctionnaient pas. Hein. Ah, il disait, jour et nuit, je pleure. Et pourtant, hein, il n'était pas sans prier pour supplier le Seigneur pour qu'il y ait quelque chose. Alors, la réponse au pourquoi et au comment, on peut en arriver, on arrivait là. Alors, on va prendre la suite, verset 7. L'Éternel dit à Samuel qu'il l'avait prié, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Et vous allez voir pourquoi. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Voilà le diagnostic du divin médecin. Ce qui peut peut-être être un soulagement pour Samuel, en disant « je me suis dépensé, je me suis véritablement, j'ai tout donné, et je m'aperçois que le peuple d'Israël est dans un état de décadence, alors à quoi ça servit tout ce que j'ai pu faire ?» Mais Dieu lui dit non, parce que Dieu a compassion de ses serviteurs et de ceux qui sont fidèles. Et Dieu lui dit non, tu as fait tout ce que tu pouvais faire, tout ce que tu devais faire, tout ce que je t'ai inspiré de faire. C'est la même histoire qu'elle dit quand il a sa grande dépression nerveuse, là, vous savez, hein, quand il va dans le désert et tout ça. Il lui dit non, c'est pas toi qui le rejette. C'est moi leur Dieu. Ils sont en train de, véritablement, de dire, nous ne voulons pas que Dieu règne sur nous. Nous ne voulons pas entendre parler de Dieu. Et là, c'est beaucoup plus grave, la maladie est beaucoup plus grave que cela, hein. Et la cause et les raisons sont accablantes. Afin que je ne règne plus sur eux. Ah oui, parce que Dieu règne. Mais bien sûr, Dieu règne dans le ciel et sur la terre. Il règne sur les nations, il règne sur les peuples. Il régnait, il règne et il règnera. Et il règnera pour l'éternité. Et il a régné sur Israël avec un privilège particulier parce que c'était le peuple que Dieu avait choisi. Ils ne veulent plus de moi. Ils ne veulent plus de Dieu. Moi, leur Dieu, qui les ai fait sortir d'Égypte, qui leur donne aujourd'hui et tous les jours ce dont ils ont besoin, qui les délivre dans les combats de la guerre, qui leur donne des victoires, qui leur donne la santé, qui leur donne tout ce dont ils ont besoin, ils ont tout oublié. Ce n'est plus moi qu'ils veulent. Que veulent-ils? Vous savez, c'est exactement le remake de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Vous savez, quand l'homme a eu le choix entre l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? C'est une déclaration d'indépendance. On n'a plus confiance en Dieu et on fait notre route tout seul. Et c'est répétitif à travers toutes les leçons de l'histoire comme ça. C'est terrible. C'est terrible parce que nous voyons que les sociétés ont été marquées par ce phénomène d'indépendance. Nous voulons être libres, nous voulons faire ce que nous voulons croire ce que nous voulons croire, ce que nous pensons. Et encore aujourd'hui, plus que jamais, où l'autorité, à quelque niveau que ce soit, qu'elle soit professionnelle, professorale, qu'elle soit politique, qu'elle soit pastorale, ou dans n'importe, ou parentale, on s'aperçoit que, terminé, hein. On le voit déjà chez tous les petits, c'est une grave crise que nous vivons. Mais c'est, ne soyons pas surpris. Ça commençait dans le jardin d'Éden, hein. Nous ne voulons pas, parce que c'est comme ça, tout simplement. C'est un état récurrent qui a frappé l'humanité, et c'est le témoignage d'une tragique vérité, enfouie depuis si longtemps dans les cœurs. Et Dieu dira, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux, c'est la suite. Ils agissent à ton égard, comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte. Jusqu'à ce jour, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Quelle catastrophe! D'autres dieux? Y aurait-il d'autres dieux? Y aurait-il autre chose? Y aurait-il une autre façon? Y aurait-il un pré où l'herbe est plus verte qu'ailleurs? Rappelons tout de suite ce que nous avons lu au départ. Jésus nous dit, hein, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit il va aimer l'un, et ou il méprisera l'autre. On ne peut servir Dieu et Mammon. C'est-à-dire, alors Mammon c'est la richesse, mais c'est mon moi, c'est mon égoïsme, c'est ce que je suis. Je me fais moi-même Dieu quelque part, j'ai pas besoin de Dieu. On ne peut servir deux maîtres à la fois. C'est pas possible. L'idolâtrie au fond des cœurs. Ah oui. Cette idolâtrie au fond des cœurs, eh bien, c'est Jean qui nous en parle. Et peut-être est-il bon de rappeler ce verset. Quant au chapitre 1, Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, il est dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Alors le monde passe, le roi passe, les rois vont passer, les royaumes vont passer, les régimes vont passer. Toutes sortes d'autorités passeront sur le monde. Le monde passe, sa convoitise aussi, parce qu'ils sont pleins de convoitises quand ils demandent ça. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Que Samuel soit là, vivant, ou qu'il soit parti, la volonté de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu demeure éternellement. Notre attachement n'est pas à un homme. Notre attachement, il est à Jésus-Christ, mes frères et sœurs. C'est la personne de Jésus et sa parole qui fait autorité dans notre vie. Et rien d'autre. Qu'est-ce que la conversion, vous en souvenez? Qu'est-ce que naître de nouveau? Sinon, non pas avoir les apparences d'un bon israélite, ou d'un bon hébreu, d'un bon juif, d'un bon chrétien, mais ce qui fait la conversion, c'est le changement à l'intérieur de nous-mêmes. Quand Josué dira « Moi et ma maison nous servirons l'Éternel », ça voulait dire que c'était profond, hein. C'était pas de dire, ben voilà, on va faire quelques petites choses pour te faire plaisir, c'est pas ça. Mais c'est parce qu'il y a vraiment une transformation. Quand on entend Ruth dire à Naomi, sa belle-mère, « Là où tu iras, j'irai, là où tu mourras, je mourrai, et ton Dieu sera mon Dieu. » Ben moi, je peux vous dire qu'il y a une conversion ici. Et vous savez, on s'est attaché pendant des années, quand on a baptisé les gens, enfin moi personnellement, ici et avant, à véritablement vérifier, mais bon, on n'est pas parfait, à vérifier que ceux qui s'engagent, ils soient bien nés de nouveau, ils aiment le Seigneur. Et ils ne l'aiment pas pour quelques jours, ils l'aiment pour tout le temps, jusqu'à la fin de leur vie. Alors après, on leur dit, ben vous pouvez vous engager maintenant. Parce que vous êtes prêts, vous avez fait la confession, non pas devant une église, non pas devant des hommes, mais vous l'avez fait devant le Seigneur. C'est important, mais parvenir en arrière. Et c'est ce qui se passait pour le peuple d'Israël. La conversion, c'est un choix résolu du cœur de l'homme et c'est aussi une œuvre d'une vie nouvelle parce qu'on ne peut pas être assis entre eux. Vous avez tout compris pratiquement. Hein. Vous avez votre chaise? On ne peut pas être assis entre deux chaises. On ne peut pas aller d'un côté ou d'un autre en disant un petit peu par-ci, un petit peu par-là, c'est pas possible. Ou alors à ce moment-là, on choisit. Soit ben on fait comme le peuple Israël, nous voulons un roi. Ou alors à ce moment-là, Dieu, tu es mon roi. Jésus, tu es mon sauveur et mon Seigneur, et c'est ferme, résolu. Et on va aller dans ce domaine-là. Parce qu'il y a des conséquences et on va les voir. Vous savez, il y a le prophète Élie à un moment donné, dont vous connaissez l'histoire. Il va être confronté à une véritable crise dans le peuple d'Israël. Et vous vous souvenez naturellement de cet épisode d'Élie au mont Carmel. Alors, pour bien montrer que aussi Élie avait cette perspicacité de voir ce qui n'allait pas, je lis un peu le contexte. Le roi Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Il rassembla les prophètes sur la montagne du Carmel. C'était ses faux prophètes à lui. Hein. C'était un mauvais roi. Hein. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusque à quand ?» Vous connaissez ?« Boiterez-vous des deux côtés. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, alors allez avec lui. Mais ne restez pas assis entre deux chaises. Ne clochez pas des deux pieds. Marchez droit, vous avez pris une résolution, tenez-vous à cette résolution fermement. Voilà, il n'y a pas d'ambivalence. Il faut se déterminer à faire le choix entre l'obéissance du cœur, une obéissance que nous pourrons caractériser de sincère, de profonde par amour, pour la vérité et la justice, par une affection pure pour Dieu, ou alors, nous allons faire la démonstration de notre capitulation de soumission aux hommes. Nous voulons un roi. Alors, je voudrais dire tout de suite, parce que la Bible en parle et le Nouveau Testament, il n'est pas question dans notre message d'affronter les autorités, que ce soit président, roi, etc. Au contraire, il nous est dit de les honorer par une vie chrétienne. Mais là, il s'agit pas de ça. Il s'agit pas de faire la révolution et puis de couper la tête à Louis XVI tout à nouveau. Il y en avait qu'une. Mais toujours est-il qu'il s'agit tout simplement de choisir entre le pouvoir des hommes, la gloire des hommes, la puissance, finalement, du monde, ou alors la puissance de Dieu. Qui allons-nous choisir? Et beaucoup de chrétiens, parfois, c'est malheureux, mais c'est comme ça, ont capitulé, ont abdiqué leur position de fils de Dieu, de prince. Oui, parce que nous sommes fils et des princes. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes pour redescendre finalement dans les niveaux, eh bien, tout simplement de la mondanité. Alors, c'est Dieu ou c'est maman? On ne peut pas desservir deux maîtres à la fois, c'est pas possible. C'est pas possible. Le verset 9 nous dit, écoute donc leur voix. C'est Dieu qui conseille maintenant à Samuel. Et vous allez voir pourquoi. C'est pas bon, mais Dieu dit, tu vas y l'écouter quand même. Mais donne-leur des avertissements pour leur faire connaître les droits du roi qui règnera sur eux. Et voici les lois, voici les droits du roi qui règnera sur eux. Soit le bonheur d'être, parce que Dieu est un Dieu bénissant, de vivre en liberté avec les autres, mais avant tout avec notre propre conscience. Parce que celui qui, assis entre deux chaises, il peut pas être en tranquillité dans son âme. Il est culpabilisé, il est déchiré à l'intérieur, c'est une dualité. On le sait ça, hein, on est tous passés par là. C'est pas une condamnation ce matin, c'est une exhortation pour dire, mais tenez bon, voilà. Alors, c'est le bonheur d'être, de vivre en liberté, ou de la liberté, ou le malheur de subir. Et ça, ça s'appelle l'assujettissement. Vous allez trouver les mots d'ici quelques instants. Et d'apprendre ce que ça coûte de mettre, finalement, notre confiance dans les puissants, dans les grands, dans les hommes. Un Dieu, à un moment donné, Dieu dira, je crois que c'est dans Ésaïe, cessez de mettre votre confiance dans les hommes. Alors, il y a une confiance naturelle que l'on peut mettre naturellement, hein. Mais, quant à notre vie spirituelle, c'est autre chose. Et la liste est longue des obligations et les exigences, bon gré, mal gré. Et je pourrais vous dire, avant de les lire, à bon entendeur, salut, hein, parce que vous allez voir ce qu'il en est. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit, et là je veux marquer peut-être quelques mots, hein, « Voici quel sera le droit du roi qui règnera sur vous, puisque vous avez pleuré pour en avoir un, vous en avoir un. Il prendra, d'abord, vos fils, et il les mettra sur ses chars. » Vous qui parliez d'orgueil, c'est pas vous qui êtes rempli de prestige. Hein. « Et parmi ses cavaliers, afin qu'il court devant son char. » Vous aurez une brouette, mais lui il aurait un char, hein. Voilà. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50 pour les envoyer à la guerre. Et il les fera tuer sur le champ de bataille si c'est nécessaire. Il les emploiera à labourer ses terres, c'est pas les vôtres, ça sera plus les vôtres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, bon ça va, des cuisinières, des boulangères, et la pensée me vient, pensée à Salomon, j'en dis pas plus. Il prendra la meilleure partie de vos champs, et vous laissera le résidu, hein. De vos vignes, de vos oliviers, il la donnera à ses serviteurs, vous serez quantité négligeable, hein. D'accord? On continue. Il prendra la dîme, c'est-à-dire 10% de tout ce que vous produirez dans votre vie. Et chaque année. Il prendra la dîme du produit de vos semences, de vos vignes, et il le donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes. Il s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Voilà. C'est pas beau, ça? Vous payez des impôts? Ben, continuons à en payer. Non, je plaisante, là. Mais quand même. Soyons heureux de vivre dans un pays comme le nôtre. C'est pas partout pareil. Je ne cesse de le dire. Mais quand même. Vous voulez de Dieu qu'il soit le roi de votre vie, de votre pays, mais il vous bénira. Il multipliera jusqu'au centuple. Mais vous voulez un homme, vous voulez un roi, vous allez voir. Vous allez voir, il va servir au passage, hein. Mais il va bien servir. Vous savez, quand on connaît l'histoire, ne serait-ce que de notre pays, Dans les 20 siècles de christianisme, il y avait les serfs, il y avait les vilains, il y avait là toute une classe de pauvres gens qui avaient à peine de quoi manger et qui mouraient. Parce qu'il y avait le prestige à côté, mais c'était leur roi. Comme ça. Et moi je dis que c'est quelque chose de terrible. Le monde s'est mis dans l'esclavage. Alors bien sûr, on peut toujours dire, ben ouais, nous sommes chrétiens, etc., etc. Mais si c'est un christianisme apostat, comme ça a été pendant des siècles et des siècles, je peux vous dire que vous pouvez toujours prier, hein. Rien ne répond. D'ailleurs, on va le voir tout de suite. Vous prendre à vous pour donner aux autres et se servir de vous, vous deviendrez corvéable pour que lui soit servi, et finalement vous serez ses esclaves. Vous savez, quelquefois, moi je me dis, quand on voit le monde aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, même le monde moderne, hein, à travers toute la technologie aujourd'hui, je me dis, mais les travaux d'Égypte sont pas terminés, hein. Quand on voit la peine que les gens se donnent pour entretenir une famille, pour ceci et cela. C'est vrai qu'on s'est donné des moyens. C'est vrai qu'on s'est donné peut-être quelquefois toutes sortes de choses qui viennent, hein, alourdir notre vie. Mais vous savez, quand on est au Seigneur, on se contente de ce que l'on a. Et le Seigneur nous donne au centuple. Moi, j'aurais voulu dire, mes frères et sœurs, quelquefois je vois, il y a des familles qui rament. Hé, elles rament. Mais vous savez, quand le Seigneur nous donne, il nous donne bien. Ouais. Et il nous donne bon. Et il nous donne pas ce qui est bon, il nous donne ce qui est le meilleur. Alors on a ce que l'on a, mais on est content, on est heureux, parce que la véritable richesse et le véritable bonheur, il n'est pas à l'extérieur, il est dans mon cœur. Et ça, c'est formidable. Choisissons de dépendre, ou choisissons la dépendance du Dieu bon et bienveillant, plutôt que le despotisme des hommes et tout cela pour ressembler au monde. Est-ce que ça en vaut la peine? Écoutez, moi j'ai vécu 20 ans dans le monde, hein. Je me suis converti, j'avais une vingtaine d'années. Je peux vous dire, et que Dieu me garde jusqu'au bout, mais je peux vous dire que j'ai pas envie d'y retourner, hein. J'y étais malheureux dans le monde. Alors j'ai pas envie. Moi, pour moi, j'ai choisi Jésus comme mon roi, tout simplement. Dans Philippiens, il les a dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Ne vous remettez pas tout à nouveau sous le joug de la servitude. Vous connaissez? Mais bien sûr que vous le connaissez. Alors que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan religieux, sur le plan moral, nous sommes dans la grâce, nous ne sommes plus sur la loi. Et les lois, c'est le roi. Le roi, c'est la loi. Jésus-Christ, c'est la grâce. Et on fait les choses pour Jésus-Christ, non pas parce que c'est un devoir, mais parce qu'on l'aime. Et quand on aime, on ne compte pas. non seulement on ne compte pas, mais c'est facile. Quand on aime quelqu'un, c'est facile. Le verset 18, et on arrive à la fin, là. Alors, vous crierez contre votre roi, et vous serez, que vous vous êtes choisi, que vous vous êtes choisi, hein. Mais l'Éternel ne vous exaucera pas. Quelquefois, on se dit, il y a des hommes et des femmes qui connaissent Jésus-Christ et qui sont empêtrés dans toutes sortes de choses, matérielles, financières et toutes sortes de choses. Mais le Seigneur dit, oui, je comprends bien, je compatis avec toi, je vais t'aider à surmonter, mais il faut aller jusqu'au bout. Hein, parce que Jésus nous dit, vous ne sortirez de là que vous n'ayez payé la dernière pite. Hein. C'est pas Dieu qui nous y a conduits, c'est nous qui y avons été. Hein. Maintenant, Dieu est un Dieu de grâce. Quelquefois, quand il y a véritablement une véritable humiliation, quand il y a une prise de conscience, il est capable d'effacer nos dettes et nos crédits d'un seul coup. Alors vous allez voir votre banquier en disant, mais le Seigneur va payer pour moi. Il va être content, hein. Enfin, lui, ce qu'il veut, c'est que ça soit payé, c'est tout. Hein. Eh oui, c'est quelque chose trop tard. Le verset 18, c'est trop tard. Hein. Vous crierez. Vous serez malheureux, mais pourquoi retourner en prison quand on en est sorti? Trop tard. C'est l'exemple de Saül, parce que vous savez, le roi qu'ils ont eu, je dis deux mots, hein, le roi qu'ils ont eu, oh, c'était pas une vedette, excusez-moi. Je veux vous dire qu'avec, ils ont eu 40 ans de règne, c'était pas le quinquennat. C'était 40 ans! Sur le dos Saül, qui a bien commencé dans les trois premières années, mais alors après il est devenu fou. Alors vraiment fou à lire. Il a fait des guerres, qu'il a perdues. Il a fait du mal à tout le monde. C'était épouvantable. Il a ruiné son royaume. C'était abominable. Hein, vous l'avez demandé, votre aura, vous l'avez. Et vous savez pourquoi? Parce que quand Saül a été nommé roi, quand il a été oint par Samuel roi, il était grand, il était beau. Bah écoutez, vous m'excuserez, hein, c'est pas la grandeur et la beauté hein, qui fait les choses. Alors il en avait plein les yeux, il se dit, voilà, c'est notre idole. Mais on n'a pas d'idole. On n'a que des rapports de confiance et d'amour et de vérité et de justice. Le bilan est éloquent quand on voit Saül. Hein. Je peux vous dire qu'ils sont, comme on dit, ils se sont mordus les doigts, hein. Ça c'est sûr. Vous savez que nos caprices, comme c'était le cas des Hébreux, ont un prix douloureux. Oui, un prix douloureux, parce que on peut avoir des regrets dans tout cela. Verset 19 nous rappelle une vérité. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Pourtant, Dieu lui a dit deux fois, tu vas leur dire. Tu vas leur dire. Mais ils ont refusé, et ils ont dit non, dirent-ils. Mais il y aura un roi sur nous. Qu'est-ce que vous voulez faire quand il y a un tel entêtement? Tu le veux, tu l'as. Et quelquefois, vous savez, pour nous, enfants de Dieu capricieux, dans un domaine ou dans un autre, on dit « Seigneur, je le veux, je le veux, je le veux ». Bon, le Seigneur nous laisse du temps de réfléchir, hein. Puis on continue à dire « je le veux ». À un moment donné, eh bien Dieu nous dit « tu le veux, tu vas l'avoir ». Mais nous allons rentrer dans une leçon et une école qui va peut-être nous faire pleurer, pas pour nous perdre, mais pour nous donner la leçon comme nous. On le fait quelquefois avec nos enfants qui sont caractériels ou désobéissants. On se dit, ben voilà, de guerre lasse, on lui donne. Mais quelquefois, ben, il touche. Quand on lui dit, ne touche pas parce que tu vas te brûler, non, ça brûle pas. Ils mettent la main et là, je peux vous dire, après, ils s'apprennent. Hein. Et ils le font plus jamais. Hein. Le refus d'écouter, parce que il s'agit d'une sagesse élémentaire, de la raison et du bon sens. Ils ont dit non, on n'écoutera pas, on veut un roi. Et après avoir demandé à l'homme, qui n'était que Samuel, un homme, ils vont dire par trois fois. Première fois, établis-nous un roi. Deuxième fois, donne-nous un roi. Et la décision unilatérale, il y aura un roi sur nous. C'est eux qui ont décrété. Ils n'ont pas demandé à Dieu, hein. Ils n'ont pas consulté Dieu. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations, notre roi nous jugera, il marchera à notre tête, conduira nos guerres. Ça augure pas mal de choses. Hein. Oui. Ce verset nous donne le vrai mobile pour être comme les autres. Est-ce que nous avons envie de vivre et d'être comme le monde? Alors nous sommes dans le monde, on est d'accord. On n'a pas à mépriser et penser que nous sommes des êtres supérieurs et véritablement dénigrer tout ce qu'il y a autour de nous. Non, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Nous avons un rôle à jouer. Mais vivre comme le monde, avoir la mentalité du monde, non. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal qui est dans le monde. Et il y a une différence entre vivre, comme tout à chacun dans le monde, avec une vie sociale, une vie familiale, une vie professionnelle, tout ce que vous voulez, mais et puis d'adhérer aux pensées, à la mentalité du monde. C'est deux choses différentes, hein. Alors, nous voulons vivre comme, c'est-à-dire ressembler, imiter, s'identifier. Vous avez vu cette identification que l'on voit hein, sur les écrans, où les gens, il y en a un qui lance une nouvelle mode d'une manière ou d'une autre, hein, et puis tout le monde fait pareil. Voilà, tout le monde fait pareil. Vous avez remarqué, j'ai pas de trou sur les genoux. Hein. Enfin, je vous le dis, parce que moi, mon costume, je vais les garder jusqu'au bout quand même. Mais non, mais c'est vrai. Non. Je ne veux pas me moquer, mais quand même, vous vous rendez compte, ce conformisme physique, de mentalité. Alors si je ne le fais pas, c'est pas normal. Surtout ne pas être différent. Et ça, c'est le syndrome du conformisme moutonnier. Conformisme moutonnier. Il y en a un qui le fait, je dois le faire. Et on le voit chez les jeunes, chez les enfants même, dans les lycées, dans les collèges, partout, hein, chez les jeunes surtout. Pourtant, Jérémie nous dit ceci. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Il nous est dit que il peut traverser le désert. La sécheresse, il est comme un courant d'eau qui est toujours verdoyant. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, parce qu'il ne verra jamais le bonheur. Ça sera toujours de l'insatisfaction permanente, constante jusqu'à la fin. La conclusion. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Moi, j'aime bien cette expression. T'as entendu, Seigneur? Je te le redis, hein? Alors, c'est une forme d'anthropomorphisme. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix, établis sur eux un roi. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez maintenant rentrez chez vous, vous allez voir. Allez-y! Vous voulez le roi? Vous allez l'avoir. Vous lisez quelques versets plus loin et vous verrez que le roi va arriver, hein? Maintenant, je finis sur quelque chose. Il s'agit de la volonté permissive divine qui laisse faire, selon le choix des hommes, en guise d'expérience, et là souvent douloureuse et malheureuse, dans l'espoir que le fautif, ou celui qui a fait un mauvais choix volontairement, finisse par acquérir la sagesse pour, par la suite, mieux choisir. Désolé, mais c'est comme ça. On voulait éviter de te faire du mal. On voulait t'éviter que tu te fasses du mal, mais tu vas dans ce sens-là. Eh bien, j'espère que, on le dit, tu en prendras de la graine. Non, c'est pas comme ça. Mais toujours est-il que c'est une école après. C'est l'école d'Israël à travers tous les temps. Maintenant, je termine à travers une seule pensée. Sous quelle autorité voulons-nous être? Sous quelle autorité voulons-nous nous placer? Est-ce que c'est l'autorité humaine? Avec les rudiments du monde, avec la mentalité du monde, avec prétendument un roi, puisque c'était l'exemple qui nous est donné, ou est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est l'autorité de Dieu, hein? Mais qu'est-ce qu'est la véritable autorité divine et spirituelle? Qu'est-ce qu'elle est? Alors vous allez peut-être être surpris, mais c'est pas celle que vous pensez. L'autorité que nous avons en vue, c'est celle de notre régime, et heureusement. Il y a des lois, il y a des règlements, etc., etc. On dit c'est l'autorité présidentielle, hein, administrative. Enfin bon, on peut les multiplier à l'infini. On vit avec ça et heureusement d'ailleurs, parce que le monde pourrait pas vivre, pas survivre. Mais la véritable autorité, selon la Bible et selon la pensée, c'est une autorité qui nous fait grandir. Et ça, retenez-le bien. L'autorité de Dieu n'est pas restrictive. Elle n'est pas limitative, elle n'est pas limitée. C'est une autorité qui nous est donnée par sa parole, par les enseignements, celui de ce matin par exemple, pour nous amener à grandir spirituellement, moralement, et devenir des hommes et des femmes en fait. Dans son étymologie, le mot autorité vient d'un verbe latin qui signifie augmenter. Quand on voit l'autorité du monde, on se dit c'est toujours pour diminuer. On va passer bientôt à 80 km/h, hein. Bientôt, on roulera avec à 3 à l'heure. C'est toujours pour diminuer. Tu ne peux pas faire ça, c'est la loi, etc. Mais moi, je voudrais vous dire que la véritable autorité divine, celle que Dieu veut nous appliquer, et ce que Dieu nous offre, parce qu'on n'est pas obligé de l'accepter, hein, c'est toujours pour augmenter. L'autorité est donc ce qui contribue à faire grandir. Ce qui nous amène à un plus, et pas à un moins, et à un mieux-être. On dit bien d'un travail nouveau, de quelques recherches que l'homme a découvert et reconnu, que eh bien, ce qu'il vient de mettre en place, ça fait autorité. On le dit bien ça, parce que c'est quelqu'un qui a été reconnu, c'est quelqu'un qui a trouvé une solution ou une résolution à un problème, on dit ça fait autorité. C'est pas pour diminuer, c'est pour grandir. Exercer une véritable autorité, ce n'est donc pas d'abord diriger, ni organiser, gérer ou conserver, qu'il s'agisse d'une institution, on en a parlé, d'une doctrine ou d'une morale. Enfin, les trois, hein. Mais c'est avant tout innover, initier, mettre en œuvre toutes les possibilités de chacun et de chacune, que ce soit celle d'un enfant par son éducation, que ce soit celle d'un groupe ou d'un peuple ou même d'une église. Ça nous intéresse. L'autorité. En tant que pasteur, je ne suis qu'une autorité déléguée. Mais la véritable autorité, c'est Dieu, Jésus et le Saint-Esprit et sa parole. Et ce n'est pas pour diminuer, ce n'est pas pour contenir, ce n'est pas pour enfermer, c'est pour véritablement évoluer. Parce que si cette autorité-là, eh bien celle-ci, c'est l'autorité qui oriente une vie ou une histoire d'un homme et d'une femme. Quand nous nous sommes convertis, nous avons compris que la véritable autorité, c'était Jésus-Christ. Et il a écrit ma vie jusqu'à maintenant et mon histoire. Et vous, c'est exactement la même chose. On ne l'a pas vu, mais j'ai fait confiance à l'autorité de sa parole qui a créé la foi dans mon cœur. C'est ça ce qui est important. La véritable autorité ne vise pas à augmenter la puissance ou le pouvoir de celui qui l'exerce, mais elle permet à l'autre de grandir. C'est pas parce que nous avons reçu une autorité déléguée que nous devenons des pasteurs qui régentent tout, qui tiennent tout d'une main de fer, à travers le légalisme, à travers toutes sortes de choses et qui mettent des interdits partout. C'est le contraire. Moi, j'ai jamais considéré les choses de cette manière. Alors, c'est vrai que quand on est pasteur, on a une double autorité. On a une autorité humaine, mais on a une autorité qui nous a été donnée par Dieu. Ne confondez pas les deux, hein. Parce que Jésus nous dit, il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Et un pasteur qui est humble et modeste, eh ben, c'est ça la véritable autorité. C'est pas celui qui roule les mécaniques en disant, appelez-moi monsieur le pasteur. Je vais me faire tuer. Ainsi est reconnue l'autorité de Jésus. Parce que ses paroles, parce que ses gestes, parce que ses actes d'amour, ses miracles permettent et ont permis à des femmes, hier et dans tous les temps, et des hommes de construire leur histoire, d'être et de devenir les auteurs de leur propre vie. C'est pas moi qui gère votre vie, c'est vous qui allez la gérer sous l'autorité de la parole, de la personne de Jésus, parce que vous allez reconnaître finalement que c'est l'autorité divine. C'est l'autorité sous laquelle vous vous êtes placé, non pas pour diminuer, non pas pour être contraint, non pas pour être enfermé dans des commandements, dans des lois, dans toutes sortes de restrictifs, mais de pouvoir nager dans la grâce, vivre dans la grâce, et être des gens heureux. Et si vous êtes heureux, vous rendrez les autres heureux, et ils auront envie d'être comme vous. On aura atteint le but, n'est-ce pas, hein ? Contrairement à ce que l'on pense, la vraie autorité autorise et n'interdit pas, parce qu'elle tient compte de l'élément de la grâce. On a trop vu, ne goûte pas, ne mange pas, ne regarde pas, ne ceci, ne pas cela. Paul dira, mais tout ça, ce sont des préceptes humains qui n'ont rien à voir avec le message de l'Évangile. L'objectif n'est pas d'avoir raison contre l'autre, parce que j'ai l'autorité, parce que je t'impose mon autorité, mais de contribuer à la qualité de la vie de notre ensemble. Eh oui, moi il y a des choses que je sais, mais si on vient pas me demander, moi je dis rien. Je prie, je fais comme Samuel, et puis quand les gens s'en aperçoivent, je dis, mais oui, voilà, on a prié. Maintenant, ça va quelquefois, et souvent dans le bon sens, mais quelquefois les gens ils se coincent les doigts dans la portière. Hein. Et là, ils viennent pleurer devant le pasteur. Et malheureusement, on peut leur dire, j'aurais pu te dire, mais tu ne l'aurais pas entendu, comme Samuel n'a pas été écouté par le peuple. Et pourtant, il aura dit. C'est comme ça, tout simplement. Alors, le pouvoir que donne l'autorité, ça se conquiert avec les sentiments qui sont en Jésus-Christ, avec les sentiments, la mentalité que nous avons dans l'Évangile, et ça se garde. L'autorité, elle se reçoit, elle se partage, et elle s'expose comme ce matin, elle se dit, pour vous dire... Quand Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de ceci, de cela, car je suis doux et humble de cœur. C'est lui votre vrai roi. On va prier maintenant quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole. Quelquefois, nous sommes déboussolés dans le monde, parce que soit il y a du laxisme dans tous les domaines, partout, de la dissolution, ça nous donne parfois le haut de cœur. Ou alors il y a une autorité, Seigneur, qui frise avec la tyrannie, avec le despotisme, dans les vies, dans les consciences, dans les esprits des hommes, et qui affecte, Père éternel, c'est vrai, le sentiment et la morale. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons te rendre grâce pour cette parole que nous avons entendue ce matin. Quelle idée de demander un roi, après avoir eu véritablement le roi des rois et le seigneur des seigneurs pour le peuple d'Israël. Seigneur, dans le nom de Jésus, cette histoire nous parle, parce que c'est pas l'histoire d'hier, c'est l'histoire d'aujourd'hui et ça peut être aussi notre histoire à nous maintenant. Seigneur, dans le nom de Jésus, je veux te dire que véritablement, Père éternel, et me rappeler qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas être assis entre deux chaises. On ne peut pas être partagé parce que nous allons être déchirés. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons encore faire cette déclaration de foi tous ensemble ce matin. Seigneur, Seigneur Jésus, tu es mon sauveur. Tu es mon Seigneur. Et je veux que tu règnes sur moi. Toujours de plus en plus. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Père. Merci Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.